Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Mes chers amis, bonjour, ici Pauline Agneau et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Avec ce podcast, toutes les semaines, mon objectif est de vous faire découvrir ou redécouvrir une personnalité remarquable, ses moments de doute, ses grandes décisions, ses réflexions, afin de vous faire bénéficier de son expérience, bien sûr, et puis vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur le podcast Mathilde Thomas, qui est cofondatrice avec son mari Bertrand de la marque de cosmétiques Caudalie, fondée en 1993 quand Mathilde avait à peine 23 ans. 23 ans quand on y pense, c'est assez fou. 30 ans plus tard, la marque évidemment est toujours là et s'est même énormément développée à l'échelle mondiale, en Chine, aux États-Unis, dans toute l'Europe, et c'est exactement ce dont on a parlé avec Mathilde. Aujourd'hui, Mathilde dirige toujours la marque avec son mari et se consacre dans son cas principalement à la composition des produits, au marketing, tout en étant bien sûr la principale ambassadrice de l'entreprise dans le monde. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans cet épisode, c'est premièrement à quel point Mathilde est amoureuse de son produit. On le sent quand elle en parle, on sent que le produit met vraiment au cœur de toutes ses problématiques, de son intention. Et j'ai vraiment ressenti au moment où elle parlait justement des produits Caudalie qu'elle avait encore la même passion probablement que ce qui l'avait animée au départ quand elle avait fondé la marque. D'autre part, j'avais personnellement très envie aussi de parler du fait que Caudalie est une marque qui est encore familiale, qui est détenue en majorité par la famille fondatrice et qui s'est développée de manière indépendante. En cosmétique, je peux vous dire que c'est quelque chose de très rare. C'est aussi quelque chose que j'essaye de faire avec ma propre entreprise. Donc j'étais évidemment particulièrement intéressée par ces sujets. Vous allez voir, cet épisode est frais, il est intéressant, il est passionnant, à l'image de Mathilde Thomas. Si d'ailleurs vous souhaitez la suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à le faire, elle est très présente, notamment sur Instagram, et je vous invite à lui envoyer un petit message si cet épisode vous a plu. Mais je ne vous en dis pas plus, et laisse place à ma conversation avec Mathilde Thomas. Bonjour Mathilde.
Bonjour Pauline.
Enchantée, merci mille fois d'être venue. Puis alors en plus là tu me gâtes, je crois qu'on peut le dire. Merci beaucoup d'être avec moi. Alors j'ai plein de questions pour toi, mais j'ai voulu commencer par un sujet qui m'intéresse personnellement, à savoir l'indépendance de ta marque.
Ah,
tu vois, original. J'aimerais en parler parce que Gémio est aussi une marque indépendante. On est actionnaire majoritaire avec mon mari et c'est un choix assez rare en réalité. Et donc je voulais te demander pourquoi ce choix, quand on a une marque qui a une telle trajectoire, il est quand même assez fréquent. À une époque de consolidation, tu vois, qu'on se dise à un moment donné je vais vendre ma boîte. Ou en plus je trouve que la presse quand même a tendance à vraiment beaucoup valoriser les histoires de start-up tech qui vendent leur entreprise. Donc là t'es complètement à l'encontre, on va dire, de la tendance actuelle sur ce sujet. Personnellement, t'as compris que je suis légèrement biaisée parce que je suis complètement en phase avec toi, mais donc j'aimerais comprendre en fait d'où est venu ce choix, si ça a été une décision consciente, maturée. Est-ce que tu peux me prendre par la main et me raconter comment est-ce que tu en es arrivée avec ton mari à ce choix?
Parce qu'on adore ce qu'on fait, on est passionné. Je pense que le travail, c'est important pour la santé mentale de tout le monde. Et parce que surtout, j'ai mon arme secrète qui est mon mari qui gère ultra bien cette entreprise. Mmh. Et donc, on n'a pas besoin de faire rentrer des actionnaires, on n'a pas besoin d'avoir d'emprunt. Et je trouve que c'est la liberté ultime d'être seul chez toi. On est à 50-50 dans cette entreprise et c'est notre bien le plus précieux.
C'est hyper... J'aime bien cette phrase, tu vois, seul chez toi, t'es chez toi. Non, mais c'est vrai. Et en fait, on oublie que quand on fait rentrer des actionnaires, tu vois, des investisseurs extérieurs, d'une certaine manière, on laisse un peu une chambre à quelqu'un dans la maison. Et en fait, ça peut être bien, ils peuvent nous apporter des choses. Hein, je suis pas du tout contre ça. Nous, on a des actionnaires qu'on aime beaucoup chez Gémio. Mais je voulais en parler parce que je te dis, je trouve que c'est un peu contre les idées reçues actuelles de, en fait, le goal ultime pour un entrepreneur, en fait, c'est de créer une entreprise et de le revendre dans 5 ans. Toi, je me rappelle pas la date de la fondation de Caudalie, mais c'est
1995. Caudalie a 28 ans, donc tu as bien compris qu'on est on n'est plus là pour vendre, on l'a jamais été.
Mais c'est l'histoire du... En fait, ma question, c'est est-ce que au démarrage, quand vous avez lancé la marque, ça a été quelque chose d'évident pour vous, justement, ce choix du long terme, ou c'est quelque chose qui s'est construit avec le temps ?
Écoute, on n'a pas créé Caudalie avec une exit stratégie en tête. On a créé Caudalie parce qu'on y croyait, parce qu'on s'est associé à un chercheur, parce qu'on avait une belle molécule, des produits efficaces. Et au début, il était question de la survie de l'entreprise. Les 5 premières années, tu te demandes si ça va fonctionner, tu te demandes si tu vas réussir à survivre dans ce monde ultra compétitif, surtout en cosmétique au milieu des multinationales. Et après, effectivement, quand tu commences à marcher, à être vu, toutes les entreprises viennent te voir, te proposent de te racheter. Mais non, il n'y en a jamais été question parce que on est trop heureux, on adore nos équipes, on adore ce qu'on fait. Non, qu'est-ce qu'on ferait si on vendait Caudalie?
On adore. Qu'est-ce qu'on ferait? C'est quoi la culture chez Caudalie en interne? Est-ce que vous avez mis des mots dessus? Est-ce que même sans que ça soit, tu vois, forcément formalisé, vous avez un peu réfléchi à ces sujets. Il y a des valeurs qui comptent pour vous, pour l'entreprise, pour les collaborateurs?
Alors évidemment, c'est une entreprise familiale,
ouais,
avec toutes les valeurs qui vont avec. Chacun est autonome, ultra responsable. Chacun gère sa petite PME. On adore les entrepreneurs, on adore les gens qui prennent des risques. On encourage les risques, même si on n'a pas juste à tous les coups. Puis il y a surtout une entreprise start-up, pas trop de hiérarchie, les décisions se prennent vite. Ambiance familiale, sympathique, pas de politique.
Le rêve, quoi. Non. Donc, mais franchement, mais tu vois ce que je trouve, je te pose toutes ces questions parce que donc moi j'aime pas trop parler de ma boîte, mais en gros j'ai aussi plein de problématiques et on est une toute petite entreprise par rapport à vous, mais avec plein de questions justement sur, à un moment donné en fait l'entreprise elle se développe et t'as envie que la culture elle se pérennise alors même que il y a des nouvelles personnes qui arrivent, c'est en train de grossir, etc. Et donc ma question c'est: est-ce qu'il y a une recette? Est-ce qu'il y a des conseils que tu pourrais me donner pour réussir justement à garder cette culture que d'un point de vue extérieur, j'ai un peu ressenti franchement en faisant mes recherches sur Caudalie, de ce que tu décris. Et en fait, quand on est 1000 personnes, c'est pas évident en fait de réussir à garder cette culture familiale, risque, enfin tu vois, entrepreneuriale.
Déjà, il faut qu'il y ait une volonté au sommet. Ça vient de Bertrand et moi. Et il faut régulièrement voir les équipes. Tous les nouveaux doivent être formés, on les voit tous personnellement, on déjeune avec eux, on passe du temps avec eux, on leur explique la culture d'entreprise, la manière dont on fonctionne. Et puis après, on voyage beaucoup dans les filiales, parce que c'est ça qui est le plus compliqué. Finalement, tous ceux qui travaillent avec nous au siège social, on les croise tous les jours, on les voit, les idées infusent, percolent et ils nous connaissent. Mais on essaye de se rendre aux US, on essaye d'aller en Asie pour établir une culture. Et on voit que depuis 3 ans, on n'est pas allé en Chine. On a perdu la culture.
Ah ouais.
Ouais.
C'est fou, hein.
Donc j'y vais bientôt.
Donc en fait, le lien avec le terrain, avec les gens, aujourd'hui, tu dirais que ça fait une très très grosse partie de ton rôle, toi, de dirigeante chez Caudalie?
Bien sûr. Après, on s'est répartis les rôles. Et moi, c'est vrai que je m'occupe beaucoup de tout ce qui est produit, R&D, recherche et développement, création de contenu. Et Bertrand s'occupe plus du commerce, des finances, de la stratégie. Mais on est tout le temps sur le terrain. Ouais. Tout le temps. Soit en représentation, soit pour aller voir comment se vendent les produits dans les points de vente, soit pour aller prêcher la bonne parole.
et ce lien avec le terrain, c'est fatigant, quoi, quand même, d'aller faire des allers-retours un peu partout, d'aller de temps en temps en Chine, hors de Paris, etc. Je peux imaginer que de temps en temps, la tentation est forte de se dire « Non, mais en fait, là, je reste au bureau. Hein. J'ai quand même fait déjà assez. » Est-ce que c'est quelque chose que vous avez mis en place naturellement et c'est venu comme une évidence, ou en fait, vous avez été obligé à un moment donné de vous mettre des garde-fous en vous disant « Non, mais en fait, la boîte, elle grossit. À un moment donné, il faut que je continue à aller un peu partout. » Est-ce que tu pourrais me parler peut-être de ce processus, tu vois, comment est-ce qu'il s'est construit?
C'est un atavisme familial. Moi, je suis née dans une famille d'entrepreneurs. Mes grands-parents travaillaient ensemble, mes parents travaillaient ensemble. Et j'ai toujours, je me souviens de ma grand-mère qui allait dans ses magasins et qui me disait la vérité, la bataille, the battle is on the battlefield. Il faut absolument aller sur le terrain. God is in details. Tu vois, je garde des citations.
C'est génial, j'adore.
Et je les ai toujours vus se retrousser les manches et aller vendre même les produits, aller sur le terrain. Donc, on reproduit le modèle, mais je pense qu'il faut être un paysan un peu poète, quoi.
Un paysan
poète. Pieds dans la glaise et la tête dans les étoiles.
Ouais. Et donc ça, bah c'est, je voulais parler un peu de ton enfance et justement des valeurs qui avaient été importantes pour toi quand tu avais grandi. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus, me parler justement de cette famille et puis surtout de qu'est-ce que sont les valeurs que tes parents, tes grands-parents t'ont transmis, qui t'ont le plus marqué et que aujourd'hui tu continues à, tu vois, vivre comme ça avec beaucoup d'intensité.
C'est vrai que tu poses des questions différentes, c'est chouette.
Merci.
Écoute, donc famille d'entrepreneurs, donc ça parlait beaucoup travail à la maison et en même temps famille de sportifs. Mes parents se sont rencontrés à l'équipe de France de ski.
Ça, c'est génial.
Donc très rapidement, je me suis retrouvée au club des sports, au club de ski de l'Alpe d'Huez. Donc un goût du travail bien fait, un goût de la compétition. Ouais. Puis une famille où ils bossent tout le temps.
Ouais. Mais on est heureux quand on bosse.
Oui, parce qu'on fait des choses qu'on aime et on le fait avec passion. Donc non, j'ai jamais vu mes parents malheureux parce qu'ils travaillaient trop. Voilà, ils bossent encore énormément et ils commencent à fatiguer un peu, mais ils adorent toujours autant, ils le font avec passion.
Et le fait qu'ils bossent ensemble, tu penses que ça t'a aussi libéré sur le fait de toi aussi travailler en couple, quoi ?
Bien sûr, sinon on n'aurait jamais osé le faire. Parce que les voyants sont rouges et tout le monde nous disait... N'y allez pas, c'est trop dangereux, vous allez mettre votre couple en péril. En fait, il y a des recettes.
Alors, j'aimerais bien qu'on en parle. Je sais pas si tu sais, j'ose pas dire qu'on a des points communs parce que c'est prétentieux de ma part, mais par contre, j'adore le ski. J'ai fait du ski en compétition aussi.
C'est vrai. Ouais, je te jure.
Et puis, je suis associée avec mon mari, donc tu vois, comme quoi. Et en fait, je voulais te demander, du coup, parce que moi, quand je l'ai fait, tout le monde m'a dit, pareil, tu vois, franchement, fuis, ça va être horrible, vous allez divorcer, vous allez perdre votre boîte. Enfin, c'était vraiment, assez dur, en fait, les paroles qu'on avait. Et, bon, on l'a fait quand même, on est toujours mariés et on s'aime toujours quelques années plus tard. Et vous, c'est la même chose. Et donc, j'aimerais comprendre pour les personnes qui nous écoutent, qui se posent ces questions, parce que j'ai plein, moi, d'auditeurs qui me disent « Ah, mais comment tu fais pour travailler en couple, Pauline ? Comment est-ce qu'on sait si ça peut marcher ou pas ? Est-ce que tu aurais des conseils à nous donner ou juste ton expérience, tu vois, pour que ça marche ? Tu disais qu'il y avait une recette. Ou pour sentir si ça peut marcher ?
Je pense qu'au départ, il faut quand même être complémentaire. Il faut le savoir. Nous, on s'est connus en prépa. On n'était pas bons dans les mêmes matières, on réfléchissait pas de la même manière, et on était complémentaires. Et c'est la même chose à Caudalie. On fait pas les mêmes choses. Moi, je suis passionnée par tout ce qui est la recherche, le développement, les produits, la formulation, la création de contenu. Et lui, ça l'intéresse moins que tout ce qui est commercial. Il adore. Il est tout le temps sur le terrain avec ses équipes, en France, partout, à l'étranger. Donc je pense qu'une des recettes, c'est de faire confiance, de définir ton territoire et après d'essayer de pas trop empiéter sur le territoire de l'autre. Tu peux l'influencer, mais tu sais que c'est lui qui aura le dernier mot.
Ouais, ça c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux donner ton avis et dire, écoute, là, je pense que c'est pas la bonne manière de faire ou je ne sais quoi. Mais au final, il y a quand même chacun dans vos domaines une personne qui est owner du sujet, quoi.
Oui.
D'accord. Pour le dire de manière très claire. Et alors, quelles seraient peut-être les erreurs que vous avez commises ou les choses que tu as pu observer qui fonctionnent pas, que tu pourrais partager avec nous pour que, moi déjà, je progresse et puis peut-être certains de nos auditeurs.
Alors, les erreurs, en général, à Caudalie, on en a fait beaucoup. J'ai l'impression qu'on les a toutes faites puisqu'on s'est lancé dans cette grande aventure à 23 ans. On avait 6 mois d'expérience, lui chez L'Oréal, moi dans une maison de parfum chez Roberté. On a tout fait à l'envers. L'important, c'est de les faire une fois, les erreurs. Qu'est-ce qu'on a fait? Je dirais que la première erreur qu'on a faite, c'est qu'on est allé, on a dit oui trop vite dans des pays trop lointains.
Ah ouais?
On a ouvert le Japon, on a ouvert l'Australie.
Au bout de combien de temps, tu dirais, ça?
En fait, on a eu un énorme éclairage médiatique au bout de 5 ans quand on a ouvert le spa de vinothérapie au milieu des vignes de Smith Lafitte à Bordeaux. Et là, tout le monde nous a appelés. Les Français fous inventaient la vinothérapie. On avait même les chaînes de télé NBC et ABC qui se battaient pour avoir la première de la vinothérapie. Les Anglais qui nous caricaturaient, nous Français, avec un gros nez rouge, une paille dans une barrique remplie de vin. On est allé trop loin, trop vite. On n'aurait jamais dû aller au Japon parce que on n'avait pas les moyens d'y aller. C'est un voyage ultra long. On n'avait pas les moyens d'investir sur place. Et une fois qu'on y était, Oui, certes, on a dit oui à un distributeur, mais on n'était pas là pour le soutenir. Donc, évidemment, 5 années après, ça s'est écroulé. On aurait dû faire la politique de la goutte d'huile, la politique de la tache d'eau, tu sais, où tu commences en France et puis tu développes les pays tout autour.
Ah, tu penses que ça, c'est quelque chose que vous auriez dû faire d'avoir une stratégie plus, je sais pas comment on dit, granulaire, quoi. Enfin, en gros, de s'étendre de manière plus naturelle et pas...
Non, on aurait dû commencer autour de la France.
D'accord. Donc, Angleterre, l'Allemagne, Suisse. C'est assez contre-intuitif, je trouve, comme idée, parce que c'est vrai qu'on, le Japon, ça fait rêver, ou les États-Unis, ça fait rêver.
Sauf que, en France, on commençait à connaître la distribution, on était distribué en pharmacie. Et en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Portugal, tu as exactement le même réseau de distribution, donc on connaissait, alors qu'au Japon, on n'est pas en pharmacie. Oui. Et puis il y a des problèmes de langue sur les packagings. Non, c'est pas contre-intuitif. On aurait dû commencer autour. On a finalement attendu et puis on y allait plus vers 2004-2005. Écoute, on a compris vite.
Alors, ça fait, tu disais, 28 ans, c'est ça que Caudalie existe. Oh. Bientôt les 30 ans, vous allez faire quelque chose, j'imagine. Je suis assez fascinée par le fait que, franchement, des marques de cosmétiques qui se lancent, il y en a quand même des palanquées. Mais... Alors certes, elles n'ont pas toutes 28 ans, mais qui ont, si tu veux, atteint le niveau de succès, de rentabilité, de tout ce que tu veux de Caudalie, c'est quand même assez rarissime. Et donc, je voulais te demander, si tu prends énormément de recul sur ces 28 années, qu'est-ce qui, pour toi, ont été les grands facteurs clés de succès de Caudalie? Est-ce que c'est juste les formules? Est-ce que c'est... Enfin, il y en a plein, je suis sûre.
Il y en a plein.
Mais est-ce que tu pourrais nous donner des petits éléments pour qu'on comprenne? Parce que c'est vrai que quand on se lance dans un secteur aussi compétitif, on peut se dire un peu, mais c'est impossible. Et là, la preuve est, c'est possible.
C'est possible, mais il nous a fallu beaucoup de temps et beaucoup de travail. Pour moi, le facteur numéro un, ça reste le produit. La vérité est quand même dans le produit. Donc, des formules efficaces, uniques. Tu sais qu'on est quand même numéro un de l'anti-tache avec notre produit Vino Perfect. On est numéro un de l'anti-tache dans toute l'Europe. Numéro un de l'anti-ride en France. Et maintenant, on est numéro 4 en acné. Donc, on est vachement bon quand on a un problème de peau pour résoudre ce problème de peau. Bon réseau de distribution pour des produits qui arrivent à...
Mais donc le produit quand même.
Le produit, mais l'efficacité du produit, c'est pas tout. Autour, on développe une formule qui est ultra naturelle, ultra clean. On a été les clean avant que le clean soit cool à Caudalie. Bah oui. Et après, on essaye d'être une marque aussi éco-responsable. Donc, je mettrai ça en un. Ensuite, j'ai à mes côtés un Bertrand qui est un ultra organisé, rationnel... Et qui, lui, s'est occupé de la distribution. Parce que si t'as un bon produit et que tu le trouves nulle part, ça peut pas marcher. Et donc, monter une force de vente dans les pharmacies, non seulement en France, mais aussi dans toute l'Europe, et puis après un réseau dans les Amériques et en Asie, c'est lui qui a bâti les équipes et c'est la force de Caudalie.
Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé d'ouvrir ce spa incroyable dans le sud et qui, j'ai l'impression de ce que tu disais, a été quand même à un moment donné un accélérateur, en tout cas, vous a fait passer un cap en termes de notoriété?
Alors ça, c'est incroyable. Donc mes parents reprennent le vignoble Smith Olafite en 1990. C'est là où on a eu l'idée de créer Caudalie, puisque 3 ans après, on a rencontré un docteur en pharmacie. Et puis j'ai des parents ultra dynamiques, entrepreneurs, qui organisaient pas mal de mariages dans leur nouveau domaine et qui voient que les mariés n'ont nulle part où dormir, pas d'endroit sympa. Donc ma maman se dit, on va ouvrir des chambres d'hôtes. L'idée est née comme ça. En parallèle, nous, on était vendus aux États-Unis. En Napa Valley, on a des Américains qui nous disent « On a vu vos crèmes à base de pépins de raisin, venez, on va ensemble ouvrir un spa à base de raisin, mais il faudra prendre des pépins de raisin de Napa Valley. » Donc on a dit « Mais quelle idée brillante !» Et puis le projet hôtelier de chambres d'hôtes est devenu un petit hôtel de 30 chambres. Et puis on a dit « On va mettre une cabine de soins. » Puis ça a grandi. Ma sœur et mon beau-frère ont très vite rejoint ce projet et ils ont fait exploser les sources de Caudalie en faisant un palace 5 étoiles luxe au milieu des vignes qui a maintenant un restaurant étoilé, 80 chambres.
80 chambres.
Ouais. Et c'est vraiment un endroit merveilleux, hyper joli et qui est connu dans le monde entier.
Où je rêve d'aller pour tout te dire.
On t'attend, c'est magnifique.
Mais c'est drôle parce que finalement vous avez vraiment étendu le territoire de la vigne sur des choses assez inattendues parce que bon oui il y a un lien avec le spa quoi, mais je veux dire là on rentre carrément dans un autre domaine que la cosmétique pure, distribution, etc.
Bien sûr, non mais on n'était pas sûr. Mes parents se disent on sait pas où loger tous ces gens, donc ma maman qui a du goût se dit je vais faire des chambres d'hôtes. C'est vraiment né comme ça.
D'accord.
Et après, une fois de plus, tous les voyants étaient rouges. Et moi, je me souviens être allée présenter au cru classé de Grave, la région du vignoble, mon projet. Il y en a un qui a quand même levé la main et qui a dit « Vous allez nous faire du Disney Wine ».
Ah ouais.
On n'était pas ni attendus ni accueillis. Et au début, ils regardaient Caudalie avec un drôle d'air dans la région. Alors que maintenant, ils en sont extrêmement fiers et ça me fait très plaisir.
C'est vrai que je n'y avais pas pensé, mais en réalité, bon, le secteur du vin est quand même un secteur assez traditionnel ou chargé d'histoire, on va dire. Et donc, quand à 23 ans, tu débarques avec ton mari pour créer une marque de cosmétiques issue, du vignoble, ça n'a pas dû être si évident. En réalité, j'avais pas pensé à ce point, mais c'est vrai que bon, après, c'était pas dans le même secteur, mais quand même.
Non, puis on a même appelé une crème premier cru, ça a pas trop plu non plus. Bon, c'est bon, c'était du passé, mais
d'accord. Est-ce que dans le cadre du développement là sur ces, enfin, je suis sûre que la réponse est oui, mais dans le cadre de ces 28 dernières années, quelles ont été les périodes qui ont été pour toi, pour Caudalie, les plus challengeantes? Peut-être des périodes où, je sais pas, il y a eu des décisions pas faciles à prendre, vous avez eu des doutes. Enfin, est-ce qu'il y a eu des périodes comme ça dont tu te rappelles justement qui ont été des périodes un peu de moins bien, oui, justement que vous avez réussi à surmonter?
On s'est expatrié 8 ans. Alors, période de doute, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Quand on est appelé par les acheteurs de Sephora US qui nous disent « Caudalie, vous comprenez vraiment rien à la distribution en parfumerie aux États-Unis, honnêtement, on va vous mettre dehors. Donc, soit vous venez habiter aux États-Unis avec vos trois enfants, soit c'est la fin de notre de collaboration. » On se gratte la tête et on se dit « Qu'est-ce qu'on fait ?» Parce que les États-Unis, c'est un petit 10% dans notre chiffre d'affaires à l'époque. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on abandonne l'Europe? À qui on abandonne l'Europe? Parce qu'on était en train de faire monter des talents, mais personne ne pouvait prendre le volant de Caudalie comme ça du jour au lendemain. Donc ça, c'était un gros moment de doute quand même. Et puis on s'est organisé, on a embauché un directeur général et on est parti.
Et alors?
Et alors, ça a été à la fois une accélération exceptionnelle et puis aussi un frein. Ça a été les deux. Accélération parce que ça nous a ouvert les chakras. On s'est retrouvé 5 ans à New York où ils sont quand même très forts en digital, où la compétition chez Sephora est ultra intéressante parce que tu as que des marques de niche, justement, toutes ces petites marques qui se créent et qui vont être vendues dans les 5 ans qui viennent à des gros groupes. Donc, qui sont très pointues en discours, en packaging, en formule aussi. Ça, c'était ultra intéressant. Et puis en même temps un frein parce qu'on était loin de la France et moi j'étais loin de mon laboratoire de formulation. Mais c'était bien, après on a enchaîné avec l'Asie.
Est-ce que je sais pas si tu peux donner ce conseil, mais avec le recul, le fait d'être sur place pour un développement international, c'est quelque chose que tu regrettes, c'est quelque chose que tu trouves sain, tu l'aurais fait différemment peut-être?
Non, c'est la meilleure décision qu'on ait prise. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne serait plus indépendant si on n'était pas allé aux US et en Asie parce qu'on n'aurait pas compris ces marchés. Or, si tu veux rester indépendant, aujourd'hui, tu es obligé d'être une marque globale. Et on a appris beaucoup de choses. En Asie, encore plus. Il y a une espèce de fièvre asiatique. Et puis, tu comprends que les pays sont différents, que la Corée, la Chine, Hong Kong, l'Asie du Sud-Est, ça se traite pas de la même manière. C'est pas les mêmes canaux de distribution. Non, on regrette pas une minute. Ça a été une expérience professionnelle et surtout personnel, exceptionnel.
C'est ça, j'allais dire, à titre personnel, s'expatrier, quand on a déjà des enfants, sa boîte, on travaille avec son mari, ouais, c'est quand même chouette. Un sacré challenge, mais en même temps, c'est chouette. Est-ce que ça t'a fait évoluer, toi aussi? Ça vous a fait évoluer en tant que famille? Enfin, je peux imaginer que c'est quand même pas... c'est loin d'être anodin, quand même, d'aller en Chine, à Hong Kong.
On a beaucoup grandi. On était très français, même si Bertrand avait une maman américaine, on est devenus internationaux. On a une vision maintenant complètement globale des cosmétiques. Ah, ça nous a beaucoup fait grandir. On a adoré cette expérience et on est revenu avec, je pense, de belles idées pour Caudalie. Donc là, on est en train de les mettre en ordre de marche et on est très, très confiant pour le futur.
Eh bien, je sais pas si je peux me permettre de dire que je suis, mais je suis sûre qu'il y a encore plein de choses à construire. Il y a une phrase que j'avais lue que tu avais écrite et que je trouvais intéressante, c'est « La vie est une course à 100 à l'heure, il n'y a pas de secret, l'organisation est capitale, je laisse peu de place à l'improvisation, mon emploi du temps est suffisamment rock'n'roll, mon agenda est planifié heure par heure ». Alors je sais pas si c'est exactement les termes que tu as utilisés, mais en fait, je trouve ça chouette en fait de dire que bah en gros, il y a pas de succès, on est obligé à un moment donné de se donner les moyens de ses ambitions quoi et que bah en gros, tu bosses et beaucoup et c'est quand même bien de le rappeler. Est-ce que tu pourrais nous décrire une journée un peu typique de Mathilde Thomas? À quoi ça ressemble? Je sais pas s'il y a des journées typiques déjà, mais
non, il y a pas de journée typique. Mais si je reste au bureau, je passe beaucoup de temps avec les développeuses. On parle des futurs produits. On appelle forcément les labos qui sont dans la Cosmetic Valley à 1h30 de Paris. Généralement, je vais les voir. On se voit toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Donc, je passe beaucoup de temps sur mes produits, sur la création de contenu. Et puis après, je passe du temps avec l'Europe, parce qu'au bureau, on a aussi tout le bureau qui s'occupe du ce qu'on appelle le trade Europe. Et donc, eux essayent de booster les produits qui sont créés dans les points de vente. Donc, je passe ma vie en réunion avec les équipes pour essayer de sortir des jolis produits efficaces qui font envie.
Et donc, comme tu disais, gros focus sur la partie vraiment produit, c'est-à-dire les formules, donc le terrain, mais aussi la partie création de contenu.
Ouais. Je pense que je suis une des seules fondatrices qui connaît autant ces formules, tous les ingrédients. Quand je suis rentrée de mes 8 années d'expatriation, on a appris tout le catalogue des produits Caudalie, on a appris les ingrédients un par un, on a regardé comment on pouvait les rendre encore plus efficaces, encore plus clean, encore plus naturel. On est passé à minimum 95%. Et oui, quand je rencontre toutes ces jeunes créatrices, c'est souvent des femmes qui montent leur boîte de cosmétiques, elles sont bonnes en marketing, mais elles oublient parfois l'essentiel, qui est la formule.
C'est drôle, parce que toi, t'étais pas ingénieur, quoi.
Non, mais j'ai bossé 28 ans avec mes formulateurs, j'adore ça. Ouais.
Et c'est intéressant ce que tu disais précédemment, tu disais quand je suis revenue, on a remis à plat toutes les formules. Donc ce que j'entends, c'est que vous n'avez pas peur justement de remettre en cause l'existant et de se dire bah en fait comment est-ce qu'on peut faire pour toujours s'améliorer, ce qui est pas quelque chose de fréquent. Enfin si, c'est fréquent pour les personnes qui réussissent, mais c'est pas si évident parce que souvent quand il y a quelque chose qui marche quand même, bah t'es bien content de le laisser, puis il y a un côté un peu bah on reste dans notre zone de confort quoi. Ça c'est quelque chose que vous essayez de cultiver justement d'essayer de se challenger quoi.
On se challenge tous les jours. On se remet en question, on n'a pas peur de l'échec. C'est vrai que les packagings, on les a refait 5 fois en 28 ans. Et les formules, dès qu'il y a un nouvel ingrédient qui peut remplacer des ingrédients qui n'étaient pas clean, on se remet tout le temps en question.
Et ça, cette remise en question, elle vient en général d'où? Elle vient de vous les fondateurs, elle vient du terrain, elle vient des clients, enfin, parce que tu vois, c'est une chose de le faire, mais faut avoir l'idée et faut à un moment donné qu'on se dise, OK, allez, on y va.
On est très challengé parce que c'est un business ultra compétitif. Et puis après, j'ai un mari qui nous pousse beaucoup et c'est vrai qu'il n'hésite pas à se remettre en question tous les matins.
Je voulais revenir encore sur l'international. Là aussi, c'est un sujet qui m'intéresse parce que j'y réfléchis beaucoup. Tu disais donc que vous regrettiez, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas que vous avez été très rapidement au Japon. Qu'est-ce qui a été à l'époque quand même l'élément déclencheur qui a fait que vous êtes dit ben on passe de la France à l'international comme ça? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes dit OK, c'est bon, on y va, on fonce?
C'est à 100% l'ouverture du spa Vinothérapie à Martillac, à Bordeaux. Parce que, je te dis, on a eu cet éclairage médiatique, des articles partout dans le monde, des télés partout dans le monde, et donc on a eu des appels. C'était irrésistible.
D'accord. Oui, c'était savoir saisir des opportunités aussi, quoi.
On n'a pas réfléchi assez. On s'est dit, non, on y va. Le meilleur distributeur de cosmétiques japonais nous propose de nous distribuer. On n'avait pas évalué les conséquences, le fait qu'il fallait se déplacer plusieurs fois par an, investir, qu'il fallait avoir plusieurs langues sur nos packaging,
ouais,
faire des produits spécifiques.
Oui, mais bon, d'un autre côté, l'instinct, ça... Quelle est, tu dirais, la part d'instinct versus la décision très, très mûrie, tu vois, dans vos grandes décisions, justement? Vous êtes plutôt du type instinctif ou vous êtes plutôt du style à bien prendre le temps avant de réfléchir? Peut-être que ça a évolué aussi avec le temps.
C'est un savant mélange des deux. Écoute, Là, sur la table, j'ai un produit qui s'appelle l'eau de beauté. Ce produit, il est 100% instinctif. Je pense que si j'avais fait la moindre étude de marché sur ce produit, qu'il y a des huiles essentielles qui flottent, qui sont un peu jaunes, qui est un peu bizarre, qu'il faut secouer avant d'utiliser et qui sent les plantes une drôle d'odeur, il aurait jamais vu le jour. Et aujourd'hui, c'est le numéro un de Caudalie chez Sephora aux US.
Et toi, tu y croyais, tu savais qu'il y avait, t'as senti, t'avais un instinct qu'il y avait quelque chose, quoi.
Oui.
Tu pourrais me raconter l'histoire de ce produit, du coup? C'est drôle, je sens l'odeur, là.
Ce produit est génial. Attends, ferme les yeux, il faut que tu l'essayes. Ça pique le maquillage.
Je ne pensais pas, en plein podcast, avoir une...
Voilà. Est-ce que tu sens la menthe, le romarin, la mélisse, la myrrhe, le benjoin, la rose, la fleur?
J'aurais pas pu mettre des mots dessus, mais je sens effectivement du vert.
Écoute, ce produit est génial. Je rencontre un docteur à Paris qui me dit qu'il a retrouvé la recette de la reine Isabelle de Hongrie dans un vieux grimoire et que la légende raconte qu'à 72 ans, cette reine Isabelle avait un tas de jeunes filles parce qu'elle se mettait un élixir à base de menthe, de romarin, de benjoin, de rose, de myrrhe, de fleurs d'oranger. Et donc, j'ai trouvé sa recette effectivement géniale. C'était l'eau de la reine de Hongrie qui, en fait, est très connue. Et la légende raconte qu'à 72 ans, le roi de Pologne, qui avait 30 ans de moins qu'elle, voulait l'épouser parce qu'elle avait un teint éclatant.
Incroyable.
Incroyable. Donc, on a analysé avec nos laboratoires cette formule, on a rajouté du raisin pour l'éclat et on a mis ce produit étonnant, bizarre, sur le marché, qui fixe le maquillage, qui resserre les pores, qui donne de l'éclat, mais qui est un peu un ovni. Et c'est vrai que... Alors, il marche surtout aux US.
D'accord.
Là où il y a des parfumeries. En pharmacie, c'est un peu plus compliqué. Mais oui, il a une histoire étonnante et tous mes produits ont des histoires étonnantes. Donc moi, je suis très intuitive et Bertrand est très réfléchi pour répondre à ta question.
Ah, mais c'est ça qui est intéressant aussi, du coup. Et vous savez vous faire confiance et donc travailler les forces de l'un et de l'autre et sur ces sujets, quoi, typiquement.
Il faut que je te raconte l'histoire de notre best-seller mondial. Ça, c'est une histoire très étonnante. On savait dans le vignoble, enfin, il y a une vieille tradition quand on taille la vigne au printemps, de la sève s'écoule de la vigne. Et les femmes se mettent la sève sur le visage pour estomper leurs taches de rousseur ou sur les mains pour enlever les taches. Et ça marche bien. Et donc, on savait ça avec le professeur Vercotren, avec qui on travaillait depuis 10 ans. Et il commence à étudier dans son labo de pharmacognosie la sève de vigne. Et c'est comme ça, en fait, qu'il a isolé cette molécule qui s'appelle la viniférine, qui est bien plus efficace que la vitamine C pour donner de l'éclat à la peau et estomper les taches. Et c'est comme ça qu'est né notre best-seller international depuis 2005. Donc, tous les produits ont une vraie histoire.
Ouais, et surtout, ce que je trouve assez fou, c'est qu'en fait, vous reprenez l'histoire. Tu vois, typiquement, là, tu parlais de la reine de Hongrie, c'est ça. Là, ce qui se passait, en fait, dans les vignes. En fait, c'est issu, on va dire, d'une culture, tu vois, et j'imagine de presque de l'évolution, quoi. C'est-à-dire de dizaines et des dizaines de milliers d'années, ou en tout cas de centaines d'années, de personnes qui ont testé ces choses-là, qui les ont fait maturer, qui ont vu que ça fonctionnait, et vous arrivez en fait à reprendre en fait cette force, quoi. Je trouve ça génial.
C'est vrai.
Pour terminer, j'ai quelques grandes questions qui sont encore des questions un petit peu originales que j'aime bien poser. Tu vas me dire ce que t'en penses. La première de ces questions, c'est est-ce que dans ta vie personnelle, professionnelle, tu as vécu un grand échec? Et si oui, je veux bien que tu m'en parles, notamment déjà pour montrer qu'en fait on s'en remet. Et d'autre part parce qu'en fait, je trouve toujours intéressant de dire okay, qu'est-ce qu'on en a tiré comme enseignement.
Il y a eu beaucoup des échecs dans ma vie professionnelle. On a lancé pas mal de produits qui ont été des gros échecs. Ouais, on a voulu être pionnier dans les années 2000 sur des solaires encapsulés exceptionnels, sauf que épluchés. Non, des échecs professionnels, j'en ai eu beaucoup. Elle est dure, ta question.
Elle veut pas être dure, elle veut essayer de montrer, déjà que, tu vois, même quand on réussit, on a plein d'échecs, effectivement, donc c'est déjà rassurant de voir qu'il y en a eu. Et puis surtout, s'il y en a un qui t'a marqué, tu vois, et qui peut servir aussi à d'autres, parce que, en fait, t'en as tiré quelque chose, toi, tu dis, ça, je m'en rappellerai, parce que finalement, c'est aussi comme ça, via ces expériences en général qu'on apprend.
On a cru perdre notre société dans les années 2003-2004, quand une grande actrice américaine nous a attaqué et nous a demandé de la payer le chiffre d'affaires de Caudalie. parce qu'elle avait acheté notre contour des yeux, elle adorait notre contour des yeux. Et moi, je m'en étais saisie et j'avais balancé l'info à la terre entière. Donc, j'avais eu des centaines d'articles. Le contour des yeux était devenu numéro un, justement, chez Sephora aux US. Et malheureusement, elle était en train de signer un contrat avec une grande marque de cosmétiques. On le savait pas. Et donc, on a eu en face de nous un avocat américain de Los Angeles. Ça a été épouvantable. On a vraiment cru qu'on allait perdre l'entreprise. En plus, j'étais très enceinte. J'avais pas pu faire le voyage. Bertrand est allé se défendre à Los Angeles. Pleurer tous les deux. Enfin, c'était vraiment un moment qui nous a traumatisés. Et puis, écoute, bon, on a payé un peu, mais ça s'est soldé. On a gardé Caudalie et on est reparti. Mais on s'est fait virer de chez nos distributeurs américains. On avait un joli spa dans un palace de Paris qui nous a aussi sorti. Ça a été un moment difficile de l'entreprise.
Et ça t'a appris quelque chose ou même pas vraiment?
Écoute, maintenant je demande l'autorisation aux actrices avant de balancer leur nom à la terre.
Maintenant, la propriété intellectuelle est un sujet que tu regardes de près. On a même quand on se brûle les ailes une fois, oui. Et la propriété intellectuelle en général, non. Je comprends. S'il y avait quelque chose à refaire, ça peut être dans ta vie personnelle, professionnelle, une fois de plus, qu'est-ce que tu referais différemment?
Alors maintenant qu'on a 28 ans d'expérience en cosmétique, on referait beaucoup de choses différemment et on irait beaucoup plus vite. C'est sûr, c'est pour ça que, tu vois, je commence à investir dans des jeunes entreprises de cosmétiques et on a les clés, on connaît par cœur. Donc, si elles suivent nos conseils et qu'elles sont motivées, je dis elles parce que c'est que des filles, mais ça va aller vite pour elles. Qu'est-ce que je referais différemment? Beaucoup de choses. J'irai pas au Japon, déjà, tout de suite. J'attendrai. D'ailleurs, on n'est toujours pas distribué au Japon. On a fermé et ça nous a traumatisés, on n'y est plus. Je lancerai peu de produits, mais bien. Et je bâtirai, dès le début de l'entreprise, des produits qu'on appelle cultes, phares, solides, et j'en choisirai trois, pas plus. Parce qu'au début, on faisait de la publicité sur tout et n'importe quoi, sur notre dernier masque anti-tache, alors qu'il vaut mieux se concentrer sur les...
Les quelques best-sellers, quoi. Ouais. Ça, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu as une maxime, une citation, des mots de sagesse qui sont importants pour toi, que peut-être parfois tu te répètes aussi, que tu pourrais partager avec nous?
Écoute, moi, j'aime bien « just do it ».
« Just do it ». C'est pas mal. C'est une bonne baseline. J'ai une question bizarre, je la teste. Qu'est-ce que tu trouves beau?
La nature. Et la générosité, les qualités humaines.
La nature, pour revenir dessus, il y a un type de nature en particulier qui t'émeut ou c'est assez général?
Écoute, moi je suis fan de montagne. Je suis en fait née à la montagne. On a bougé à Bordeaux après, mais donc j'adore les Alpes, j'adore les montagnes qui se jettent dans la mer, j'adore.
Faut que tu viennes me voir en Suisse.
Ah, j'adorerais.
Alors là, j'ai une autre question. Celle-ci, elle est un peu particulière. Tu vas voir. C'est est-ce que tu as une croyance qui est controversée? Je l'appelle ma question politiquement incorrecte. En gros, une croyance, et tu constates que en France, à l'international, les gens sont plutôt pas trop d'accord avec toi et que t'es plutôt dans le, si ce n'est dans l'opposition, en tout cas dans la différence.
Je vais te faire une réponse un peu bateau. Alors, la croyance controversée, elle n'est pas controversée en France parce qu'on est toutes d'accord qu'il faut s'occuper de notre peau et que ensuite tu peux te maquiller. Enfin, d'abord, tu traites ta peau, tu traites tes boutons, tu traites ton hydratation. Et ensuite, tu te maquilles. Et j'ai vécu dans des pays où les Américaines ne dépensent pas un centime sur leur skincare et elles achètent tout de suite du maquillage pour couvrir, pour camoufler. Et ça donne des résultats sur le long terme qui sont pas terribles. Mais bon, c'est gentil comme réponse.
Non, mais c'est drôle. C'est vrai que j'y avais pas pensé, mais maintenant que tu le dis, il y a une culture du make-up et de camouflage et d'être un peu parfaite, mais d'un point de vue extérieur. Et puis quand tu grattes...
En fait, elles aiment tout ce qui est ce qu'on appelle quick fix. Elles aiment que ce soit immédiatement visible. Et elles sont marrantes. Et le maquillage est comme une armure. Moi, je me souviens un jour être arrivée tôt au bureau à New York et ma collaboratrice avait oublié de mettre du mascara et elle avait l'impression d'être à poil devant moi, tu vois. Donc, tous les matins, l'Américaine met son armure de Superwoman.
C'est marrant. Du coup, il y a quand même effectivement des énormes différences culturelles par pays. Je peux imaginer dans la beauté pas particulièrement, mais ouais. Mais voilà. Enfin, c'est quelque chose que t'as constaté toi aussi et que vous adaptez du coup, j'imagine, avec les produits, avec la communication avec Odélie.
Alors finalement, pas tant que ça, parce que c'est étonnant. Ce sérum anti-tache, c'est le best-seller partout, sur tous les continents, pour des raisons différentes. Aux États-Unis, parce qu'on est chez Sephora, donc clientèle un peu plus jeune, 30 ans, qui ont des marques d'acné. Ça fait des merveilles pour enlever les marques d'acné. En Europe, parce que les femmes aiment bronzer, mais elles n'aiment pas avoir des bronzages qui les tachent. Donc elles glissent notre sérum, qui est super pour les peaux sensibles, sous leur indice 50 pour avoir un bronzage lumineux et sans tache. Si tu vas en Asie, c'est pour unifier le teint et surtout pour enlever les taches.
D'accord.
Donc finalement, on a réussi, en communiquant un peu différemment, à avoir nos mêmes best-sellers partout, à peu près.
Oui, c'est intéressant parce que du coup, vous n'avez pas été obligé, entre guillemets, de dénaturer votre propos. Tu vois, en faisant Caudalie, qui est une marque quand même assez nature. Ouais. Et c'est pas parce que vous avez été aux États-Unis et que de base, une femme américaine a peut-être moins envie de naturel que vous avez dénaturé votre marque. Quoi. Donc vous êtes quand même resté droit dans vos bottes, mais vous avez peut-être un petit peu adapté, on va dire.
T'as exactement raison. Après, ça m'a influencé. Quand j'habitais aux États-Unis, j'ai sorti dans la gamme anti-âge global premier cru un contour de l'œil. J'ai mis 10% de nacre réflectrice de lumière, les mêmes qu'on trouve dans le touche éclat de Saint-Laurent, pour un effet gratification instantanée, quick fix, comme elles disent.
Et ça, effectivement, très bien marché. Même, faut parler à son public.
Voilà. Mais ça a très bien marché en France, du coup, aussi, après.
Ah, c'est marrant. Est-ce qu'il y a une cause qui te tient particulièrement à cœur?
Bien sûr. Quand Caudalie a commencé à bien marcher, on s'est demandé ce qu'on pouvait faire. Et on est très proche de la nature. Avec Bertrand, on a passé notre lune de miel dans les Pyrénées, dans une tente, en autonomie totale. On a marché, on a fait 3 pays en 3 jours. Rien de très chic et rien de fancy. On adore la nature. Et on a eu envie de planter des arbres. On savait pas trop comment faire. Donc j'ai contacté mon copain de Nature et Découverte qui m'a dit qu'il fallait absolument que j'appelle le fondateur de Patagonia, Yvon Chouinard, qui lui-même a créé le 1% pour la planète. Et on a eu une révélation en parlant à Yvon, qui nous a dit que c'était la plus belle chose qu'il avait fait de sa carrière, même s'il a monté cette énorme compagnie qu'est Patagonia. Et donc on est devenu en 2012 membre du 1% pour la planète. Ça veut dire que tu t'autotaxes chaque année de 1% de tes ventes et que tu les reverses. Et nous, on a choisi de les reverser pour planter des arbres. Donc on a planté 10 millions d'arbres dans 10 pays en ces 10 dernières années. Donc ça, c'est notre grande cause. Et après, on a vécu en Asie et on a vu la mousson du plastique. C'est affreux. Mes enfants et Bertrand faisaient du surf, mais il y avait des chaussures dans les vagues, quoi. C'était affreux. Il y avait du plastique partout, alors que les plages étaient paradisiaques. Et on a appelé notre ami Tristan Lecomte et on lui a demandé comment on pouvait ramasser du plastique. Et c'est ce qu'on fait depuis 2020. Donc, à Caudalie, on ramasse le même montant de plastique que ce qu'on utilise. Donc, on fait ça en Thaïlande et on le recycle localement et on l'offre sous forme de briques aux populations locales pour leurs infrastructures. Voilà, donc ça c'est Caudalie, puis après moi j'ai des causes perso que je sponsorise perso.
Est-ce que t'as des personnes qui t'ont inspiré, qui ont été peut-être des mentors, ou qui t'ont guidé, enfin qui ont vraiment compté pour toi dans ta carrière professionnelle, au-delà de Bertrand bien sûr?
Au-delà de Bertrand, j'ai été entourée, j'ai eu des chouettes mentors. J'ai vu ma grand-mère qui était avant l'heure chef d'entreprise avec son mari, qui se rendait sur place dans les magasins, qui était l'emblème, puisqu'on voyait son visage en 4x3 dans toutes les rues de Grenoble, des supermarchés, et puis aller sur place. Elle était extrêmement forte en ressources humaines, en relationnel, donc ça m'a beaucoup inspirée. Mon papa a été notre mentor. Quand on a démarré Caudalie, on avait besoin plus que tout de conseils et on l'appelait tous les jours. Ma maman, sur un autre domaine, a été très forte en communication. Donc j'ai eu de la chance de baigner dans ce milieu d'entrepreneurs et ils ont été mes mentors. Et après, Yvon Chouinard nous a inspirés pour la suite. Qu'est-ce qu'on fait si on veut être généreux, engagé?
Ma dernière question pour toi, Mathilde, c'est est-ce qu'il y a un livre ou des livres qui t'ont particulièrement marqué, qui t'ont peut-être même transformé, enfin tu vois, qui à un moment donné ont eu un impact dans ta vie pareil, perso, pro, peu importe, ça peut être des BD, ça peut être de la littérature, franchement j'ai tout eu, d'ailleurs ça peut être des films hein, si tu veux, ou autre chose,
ouais.
Mais voilà, on va dire des éléments culturels, tu vois, qui ont été importants pour toi, que tu pourrais partager avec nous et nous dire pourquoi.
Je pense qu'il y a un livre qui m'a donné ma vocation et qui est le parfum de Patrick Susskind.
Ah.
J'ai lu ça très jeune et je me prenais pour Jean-Baptiste Grenouille, je sentais toutes les odeurs, et donc j'ai fait tous mes premiers stages dans des maisons de parfums grassoises.
T'avais quand même cet attrait, quoi,
En fait, je passais mes après-midi dans l'ancêtre de Sephora qui s'appelait Shop 8. Et je connaissais tous les parfums par cœur. Donc, quand ma maman faisait un dîner, je reconnaissais les parfums de ses copines, qui étaient très gênées, qui me disaient, mais non, mais j'en ai trop mis. Et donc, je me suis cultivé un bon nez comme ça. Et mon papa m'a dit, écoute, tu sens bien, tu devrais travailler dans ce domaine. Et c'est comme ça que, tu vois, je me suis décroché des stages chez Roberté, chez Dragoco à l'époque. Et j'adorais ça jusqu'à ce qu'on rencontre le professeur Vercotraine et on a changé de vie. Sinon, je travaillerais aujourd'hui dans les parfums.
Hyper intéressant. Bah, tu vois, ça me donne envie de le relire parce que je me rappelle que c'était un livre qui était assez exceptionnel et qui, enfin, je trouvais que les mots, je me rappelle, étaient hyper bien choisis, quoi. Enfin, c'était très puissant. Mathilde, écoute, merci mille fois pour ton temps. Excuse-moi pour cette interview complètement décousue, mais c'est un peu mon style. J'espère que t'as passé un bon moment quand même. Moi, j'ai appris plein de choses.
Merci beaucoup. C'était très intéressant et différent. J'en ai fait pourtant des interviews.
Si jamais on veut te retrouver, si jamais on veut suivre Caudalie, bon, vous êtes présent sur tous les réseaux sociaux, donc Instagram, en particulier, je peux imaginer, Facebook, etc. Et toi, à titre personnel, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te contacter, te retrouver dans le monde merveilleux du web?
Sur Insta.
Insta, ouais. Mathilde Thomas.
Oui.
On te retrouve facilement. Et
oui.
Je vous invite évidemment à suivre Mathilde, qui crée plein de contenus très inspirants. Mathilde, merci mille fois. Et tu vois, là, j'ai une belle odeur qui continue à flotter dans l'air depuis tout à l'heure. Donc, merci à toi pour ton temps.
Merci, Pauline.
Bye bye les amis, c'est la fin de cet épisode, mais avant de vous quitter, quelques détails en plus. D'abord, pour toutes les infos sur le podcast et cet épisode, ça se passe sur polinegno.com, vous aurez tout promis, juré. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, me proposer de nouveaux invités, eh bien n'hésitez pas à le faire directement sur LinkedIn, Instagram ou YouTube, je vous attends. Enfin, encore mille merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère de tout cœur que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.